RFI 6h30, à Paris 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Impis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union Européenne qui élèvent la voix face à la situation dans l'est de la RDC.
Les 27 de l'UE qui font preuve d'unité et qui demandent au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de retirer ses troupes présentes chez le voisin congolais. Bruxelles qui, après la condamnation, pourrait envisager des sanctions. Pendant ce temps-là, les églises catholiques et protestantes de RDC poursuivent leurs consultations pour la paix dans le pays. Un cadre de dialogue inclusif dont ne veut officiellement pas entendre parler Félix Tshisekedi. Le président peut-il changer d'avis? Élément de réponse dans ce journal. À suivre, l'analyse d'Aliou Ntine, spécialiste des droits humains au Sahel après les assises nationales au Niger. Lui voit en toutes les propositions faites des signes annonciateurs d'instabilité politique. Et puis, ils sont cinq candidats à la présidence de la Banque africaine de développement. Parmi eux, une femme qui tentera de succéder au Nigérian Akinwumi Adesina. On vous les présente en fin de journal, ces candidats. Un point sur les derniers combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Une semaine après la prise de Bukavu par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, trois fronts sont toujours ouverts dans les territoires de Lubero, de Masisi, dans le nord Kivu. Des avancées également sur la route qui mène vers Uvira, dans le sud Kivu. Hier, c'est bien plus au sud de Bukavu que des affrontements ont eu lieu. Aux alentours de Minembwe, où les FRDC et leurs alliés ont lancé une offensive contre un groupe d'autodéfense dont le chef Michel Rukunda a été tué mercredi par une frappe de drone. Précision depuis Kinshasa, Coralie Pierret.
Les affrontements dans la commune rurale de Minembwe ont commencé vers 5h ce vendredi matin, raconte à RFI une source administrative locale. Des combats qui ont opposé une bonne partie de la journée. Des militaires congolais alliés à des Wazalendo, les milices pro-gouvernementales, à des combattants du groupe d'autodéfense Twirwaneo. Ces combattants ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos où on les voit notamment devant le bureau administratif de la commune. Joint par RFI dans l'après-midi, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée dans la région, affirmait que les combats étaient en cours et qu'il était trop tôt pour savoir qui contrôlait la zone. Il faut rappeler que les Twirwaneo, une milice qui dit défendre la communauté Banyamulenge, s'oppose depuis 2020 à l'armée congolaise selon le baromètre sécuritaire du Kivu. Celui qui est présenté comme leur chef, Michel Rukunda, alias Makanika, un ancien colonel de l'armée congolaise qui avait fait défection, a été tué mercredi 19 février dans une frappe de drone. Son groupe est cité dans un récent rapport des experts des Nations Unies où les Twirwaneo sont décrits comme ayant collaboré avec la coalition AFC M23. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Pendant ce temps-là, sur le plan diplomatique, une résolution adoptée à l'unanimité hier soir au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance qui, pour la première fois, condamne directement le Rwanda pour son soutien au M23 et lui demande de retirer toutes ses troupes du territoire congolais, position dont s'est félicité le représentant congolais qui regrettait tout de même la lenteur du Conseil de sécurité. Lui dit prendre note de cette résolution, le représentant rwandais qui est évoque des pressions exercées sur les pays africains siégeant au Conseil. Cette résolution ne prévoit pas de sanctions. Alors qu'à Bruxelles, l'Union européenne commence à en faire planer l'ombre, l'UE fait monter la pression en convoquant notamment l'ambassadeur rwandais, une unité des 27 affichée au grand jour pour la première fois sur ce dossier. RFI Bruxelles, Pierre Benazé.
Il est demandé au gouvernement rwandais, je cite, de retirer toutes les troupes présentes sur le territoire congolais et de cesser de soutenir le M23 ou tout autre groupe armé en République démocratique du Congo. Voilà le message sans détour intimé à l'ambassadeur rwandais à Bruxelles ce vendredi. L'Union condamne les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et l'offensive en cours, qui est, je cite, une violation du cessez-le-feu décidé par le processus de Luanda. L'ambassadeur en Allemagne avait été convoqué la veille et la conjonction de ces deux événements montre que les 27 ont désormais une posture commune, alors que jusqu'ici, la proposition de la Belgique d'édicter des sanctions avait suscité des réticences. Le Rwanda a d'ailleurs essayé d'isoler la Belgique de ses partenaires européens. Le coup a échoué car les autres donateurs d'aide au développement réfléchissent désormais à l'utiliser comme, je cite, levier, selon un diplomate européen. Suède, Allemagne et Pays-Bas ont été cités. Dans le même temps, les ambassadeurs des 27 à Bruxelles préparent des sanctions individuelles proposées par la France et la Belgique, envisagent une suspension du dialogue politique et de sécurité, voire des restrictions à l'accord UE-Rwanda sur les matières premières. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et pour être le plus complet possible sur la diplomatie internationale, j'ajoute cet entretien téléphonique entre le président kényan William Ruto et le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, lui qui a appelé un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Les deux hommes qui, selon Washington, ont estimé qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit et ont appelé au retour du dialogue. Mais cette option est-elle réellement sur la table? On demande d'y avoir recours à Bruxelles, à New York, à Washington, on vient d'en parler, mais aussi dans la sous-région, Luanda, Nairobi, Brazzaville ou encore Pretoria militent pour une solution par le dialogue. Voie diplomatique également défendue par les églises catholiques et protestantes de RDC, la CENCO et le CC, qui poursuivent leurs consultations pour un pacte social pour la paix. Elles étaient hier à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Mais alors, cette éventualité de dialogue avec l'ensemble des acteurs, y compris donc le groupe armé M23, est-elle réellement mise de côté par le président Félix Tshisekedi? Élément de réponse avec Patient Ligaudy.
Officiellement, Félix Tshisekedi campe sur sa position, pas question d'accepter un dialogue direct avec la FCM23. Mais en coulisses, sa position ne serait pas aussi inflexible, selon plusieurs sources proches du président. Ces derniers jours, il a reçu plusieurs alliés politiques qui l'ont encouragé à envisager un cadre de dialogue plus inclusif. S'il doit y avoir un dialogue, ce ne serait pas dans une situation où nous sommes à genoux, confie un proche du chef de l'État qui précise un certain équilibre doit d'abord être établi. Pour y parvenir, Kinshasa mise sur des renforts, des nouvelles troupes étrangères pour être déployées. Félix Tshisekedi resserre également ses liens avec les forces engagées sur le terrain. Il échange directement avec certaines unités et a ordonné des mesures pour améliorer la logistique et le ravitaillement. Pendant ce temps, sur le plan politique, en dépit des réticences de l'UDPS, certains de ses alliés de l'Union sacrée plaident en coulisses pour l'ouverture d'un dialogue. Selon plusieurs sources, le chef de l'État suit également de près l'initiative portée par l'Église catholique et les protestants.
Patient Ligaudy, tous les derniers développements concernant l'Est de la République démocratique du Congo à retrouver sur notre site internet RFI.fr.
RFI.
Le Gabon, dans ce journal, ils sont gardiens, chauffeurs ou encore femmes de ménage. Ces agents de l'État qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, au nombre de 13 000 dans le pays pour un total d'un peu plus de 100 000 fonctionnaires. Ils ont, depuis lundi, cessé leurs activités et même organisé des rassemblements devant la primature pour 1. Demander leur intégration dans la fonction publique, 2. Demander une revalorisation de leur salaire qu'ils estiment bien trop faible. Reportage depuis le piquet de grève de notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.
Ils ont déserté leur poste de travail depuis lundi. Ils se retrouvent sous les fenêtres des bureaux du Premier ministre pour lui dire qu'ils n'en peuvent plus des salaires misérables et surtout de leurs emplois précaires.
Nous sommes des agents de l'État. Nous sommes en souffrance depuis des années, 20 ans de service. Le salaire ne bouge pas, l'indice est toujours le même. Et nous disons non, nous sommes fatigués.
Nous sommes victimes d'une discrimination notoire de la part de toute l'administration gabonaise.
Parmi les grévistes, Madame Edson. Elle travaille depuis 19 ans au ministère de l'Éducation nationale sous ce statut des plus précaires.
Comment concevoir qu'un agent de la main-d'œuvre non permanente, quand il va en retraite, il a 15 000 francs de pension par mois, trimestriel 45 000 francs.
Certains agents sont déjà proches de l'âge de la retraite. Présidente du collectif, Stella Borobo-Moussavo fait des suggestions au gouvernement.
Ceux qui sont éligibles au recrutement intègrent la fonction publique et ceux qui n'ont plus l'âge, nous parlons de revalorisation des salaires, d'où nous parlons que 80 000 francs est impossible aujourd'hui pour qu'un Gabonais puisse vivre. Ce problème, c'est l'État qui l'a causé et c'est l'État qui doit résoudre ce problème.
Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur ce dossier qui dure depuis plusieurs années. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Au Niger, les assises nationales pour la refondation du pays ont pris fin jeudi. Les propositions adoptées à leur issue ont été nombreuses. Pêle-mêle, prolongement de la transition pour 5 ans, amnistie pour les militaires qui ont participé au renversement de Mohamed Bazoum ou encore promotion au grade de général d'armée 5 étoiles pour le chef de l'État Abdourahmane Tiani. Autant de recommandations qui, selon Alioune Tine, expert sur la situation des droits humains au Sahel, vont dans le sens contraire du développement du pays. On écoute.
Moi, je suis extrêmement préoccupé par cette nouvelle situation au Niger. C'est une transition qui essaye de reporter, d'invalider, de supprimer carrément d'un trait tous les progrès qui ont été accomplis depuis les années 90 en matière de démocratie, de respect d'état de droit et de stabilité d'un pays comme le Niger. Quand aujourd'hui, au terme de ce débat, on supprime tous les partis politiques au Niger, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est instaurer une dictature sans nuance. On attendait effectivement que l'on soigne, que l'on répare une démocratie abîmée. On n'attendait pas vraiment une dictature qui va vraiment consolider le règne de la force et de l'arbitraire. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour des dissidents politiques ou de la société civile de vivre au Niger, de s'exprimer et de travailler. C'est des signes qui sont annonciateurs d'instabilité politique au Niger.
Alioune Tine avec Wely Diallo. Et au lendemain de la fin de ces assises nationales, le pipeline nigérien qui conduit le brut vers le port de Semekpoji au Bénin a une nouvelle fois été attaqué. Sabotage par des hommes armés à hauteur du village de Kamré dans le département de Douchi. Le Sénégal et la Mauritanie dans la cour des exportateurs de gaz naturel liquéfié. Un premier cargo chargé de GNL a quitté le site de Grand Tortue à Meyim au large de Saint-Louis hier. Chaque cargaison devrait rapporter à Dakar et à Nouakchott quelques 2,3 millions de dollars. Et puis ils seront finalement 5 en mai prochain à se disputer la succession du Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la BAD, la Banque Africaine de Développement, l'un des piliers du financement des infrastructures continentales. 5, dont 4 hommes, mais aussi une femme. Claire Fage nous présente les candidats à ce poste.
Seule femme de cette liste définitive, la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala est déjà vice-présidente de la BAD. Elle a innové pour financer davantage la banque de développement via du capital hybride, mélange de dettes et de fonds propres. Autre candidat de la continuité, le Sénégalais Amadou Ott est l'envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance verte en Afrique. Malheureusement pour cet ancien ministre de l'économie, ce n'est pas au tour de l'Afrique de l'Ouest de fournir un président à la banque. Parmi les candidats de rupture et premier à se déclarer, le Tchadien Mahamat Abastoli est soutenu par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, malgré une fin de mandat du gouverneur de la BEAC ternie par des problèmes de gouvernance. L'économiste zambien Samuel Mounzele Maimbo, porté lui par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a fait sa carrière à la Banque mondiale. Il est malheureusement peu francophone pour une institution qui siège à Abidjan. Enfin, le Mauritanien Sidi Ouattara, président de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, dont il a doublé le capital et qui siège provisoirement à Riyad, pourrait faciliter les financements du Golfe. De bonne source, il a le soutien de la Côte d'Ivoire.
Claire Fage du service économie de RFI. À vous et à tout à l'heure, Julien Coquelroem.
À tout à l'heure, Nemo en Peace. Merci beaucoup.